Bonsoir à tous et bienvenue dans Demain tout ira mieux, votre émission de divertissement et de bonne humeur de fin de mardi de 21h à 22h sur les ondes d'IDFM à Enghien-les-Bains. Une émission qui attire de plus en plus de vues sur notre page Facebook. Et s'il y a plus de vues, c'est qu'il y a encore plus d'oreilles qui écoutent les chroniques de Pascal, d'Anne-Laure, d'Alex, de Xavier, d'Emmanuel, de Chloé, de Camille, de Christiane, de Nassim, de Magali et de Marianne. Et ça nous fait, plaisir, hein. Donc merci d'être fidèle au poste et pas seulement de police pour écouter nos digressions stylistiques et clownesques sur des sujets aussi variés que tirés par les cheveux. En tout cas, quand il en reste, hein, Christiane. Tout ceci pour vous divertir et vous détendre dans une époque aussi tendue qu'un string porté par Gérard Larcher ou Jacqueline Gourault. Alors oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas ici, dans Demain tout ira mieux, nous parlons de tout et n'importe quoi. Et surtout, Xavier.
Oui.
Bonjour. N'importe quoi, voilà. Bah, non, mais oui, c'est bien, c'est vrai qu'il a, il a découvert l'émission la semaine dernière. Ouais, ouais. Bah, il est juste 21h02, donc c'est parfait.
Il fallait pas l'embaucher.
Voilà. Et les gouvernements de ce pays nous le rendent bien sur ce n'importe quoi, car après le gouvernement Villepin et son titre, le CPE est une chance, suivi du très fameux, ce n'est pas la rue qui gouverne, après l'ensemble des réformes du gouvernement Fillon, qui a repris avec élégance, il y a une majorité silencieuse qui soutient cette réforme. Après les années Hollande et les fameuses « The Changement It Is Maintenant », Hollande qui a réussi ce tour de force de mettre ses partisans dans la rue, contre lui, soudant ainsi les pour et les contre pour faire émerger le nouveau concept du « En même temps, très fier hein, de ses enfants spirituels issus d'une semence de capote trouée en faisant barrage au Front National, le très grand et honorable Xi Jinping Macron, notre guide et chef suprême de volaille. Pardon, je la refais. Xi Jinping Macron, notre guide et chef suprême, point. Est-ce que la fonction d'homme politique ou d'homme d'État, de quelque niveau que ce soit, n'aurait pas pour vocation jusque-là uniquement de nous enfumer ou de se foutre de notre gueule ? La France a guillotiné son roi, Paris a fait ses révolutions, les penseurs ont théorisé le pouvoir et son exercice, le contrat social, les principes de liberté, d'égalité, gnagna. Tout ça pour que presque 3 siècles plus tard, on en soit à nous demander encore si c'est bien ou c'est pas bien qu'un mec en cuirassé ou en casqué ait le droit de frapper un gars en pleine rue sous prétexte qu'il se le trouve au milieu d'une manifestation requalifiée par nos esthètes de l'euphémisme de la pensée raccourcie au bras long. Attroupement en vue de la commission de violence. Vous me permettrez de ne pas répondre directement à cette question, histoire que je ne me retrouve pas comme ce pauvre journaliste espagnol qui, couvrant les manifestations d'octobre dernier, est reparti à Madrid avec un testicule en moins, après une agression policière qui est, selon les termes choisis, partie en couille. Hein. Es partida en testicula, comme on dit dans le jargon. Alors j'ajouterai simplement que depuis le début, on nous a sorti que la réforme des retraites serait une réforme équilibrée, avec un gouvernement à l'écoute, avec des interlocuteurs qui écouteront toutes les propositions qui viendront améliorer le projet, parce qu'on a appris du Covid, qu'il a dit Manu, hein, qu'il a compris que plus rien ne serait comme avant. Depuis des semaines et des mois, on leur dit assez suffisant qu'ils vont de toute façon passer en force et utiliser le 49-3 et que les médias relaient la voix de son maître. Non, nous ne voulons pas utiliser le 49-3. Nous ne nous réveillons pas un matin en disant « Tiens, utilisons le 49-3 ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben nous l'ont utilisé, hein, et nous ont dit, on l'a utilisé, mais on voulait pas. Ah non, mais sérieux, on a fait ça, mais en vrai, on voulait pas. C'est un peu comme si toi, Xavier, ta meuf, hein, revient du boulot, et elle te retrouve à poil sur le lit, les pieds et poings attachés à côté de Svetlana, en guêpière en cuir, en train de faire dada sur ton zobie, et en train de te mettre 3 poireaux dans l'yonf, et tu dis à ta meuf, attends Corinne, ne gueule pas, je voulais pas que Svetlana, je voulais dominatrice chez nous, je voulais pas. Je me suis pas réveillé ce matin en me disant, tiens, si je me faisais dominer par un mannequin ukrainien, pendant que ma femme est au boulot, mais je voulais pas.
C'est totalement improbable.
Mais comme elle est là,
étrangement spécifique.
Mais comme elle est là et que j'ai déjà payé, ce serait con que j'en profite pas. Et puis je te rappelle que tu m'as épousé, donc ton bonheur passe aussi par le mien. Mais ces enflures se réfugient derrière la légitimité sortie des urnes, faisant usage de ce raccourci bien facile pour nous faire taire, alors que je le rappelle, un certain chancelier allemand qui a commis les pires atrocités du XXe siècle et avec qui une certaine sixième puissance mondiale a collaboré bien volontiers pendant 4 années, n'est pas arrivé par la force des baïonnettes mais par celle des urnes. Un vote n'absout rien, il n'excuse pas, il ne légitime rien, mis à part les têtes que la démocratie et les médias nous impose. Alors parce que nous sommes lâches et que nous n'avons pas envie de prendre des coups de crosse dans la gueule et que Alex n'a pas envie de finir avec une couille en moins, rions ensemble de colère, de dépit et de bon cœur pour nous soulager car demain tout ira mieux. Bonjour Xavier.
Bonjour Alex.
Ça va, elle va bien Corinne?
Mais elle va très bien.
Elle va bien, bon.
Bravo.
On l'embrasserait de notre part.
Oui, bah oui, bien sûr. Et si Svetlana. Je suis pas avec Svetlana.
Et Svetlana. Ça va Alex?
Mais ça va.
Ouais, ça va, ça va bien.
Ma couille va bien. Celle qui reste.
Celle qui reste.
Celle qui reste. Enfin,
bonjour Manu.
Bonjour.
Alors lui, donc la couille d'Alex
il en
est
a
passée
3, lui.
Chez Manu.
D'accord. Bon, en antenne, hein, pour avoir le voilà. Numéro de Svetlana.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et nous saluons Tiffen, hein, qui est encore là pour soutenir quelqu'un qui serait son papa, hein, par exemple. Hein. On ne sait pas qui. Hein.
Un sacré boulot. Ouais,
sacré boulot. Et bonjour Magali.
Bonjour.
Qui vient nous commettre à nouveau une chronique, deux chroniques.
Pas drôle.
Monsieur, demandez à Manu comment ça se passe. Ça se passe très bien. Eh ben, nous allons commencer sur cette émission spéciale. Est-ce que on serait pas dit un petit peu qu'on nous enfume et qu'on va rigoler un petit peu? Alors, Xavier, la météo de l'enfumage de la politique française, c'est
oui.
Vous qui commencez.
Oui, alors, on va s'amuser un peu. Alors, attention, prenez des notes parce qu'il y aura un terreau à la fin.
Oh, merde. Ah ben, non, c'est pas parce qu'on embauche des profs qu'on va, s'interroge tout le temps. Alors, c'est bon.
Ça va changer ici.
Vous allez
on va se calmer, hein.
Vous allez entendre un discours et vous me direz ce que vous en sortez de vraiment intéressant.
Ah.
Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent interpelle le politique et le citoyen que je suis et nous oblige toutes et tous à nous rassembler et à aller de l'avant dans la voie d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice et d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Mmh. Je reste fondamentalement persuadé, et je le dis en responsabilité, que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité de solutions rapides correspondant voilà. Aux grands axes sociaux prioritaires. Ça va, vous dormez bien? J'entends dire ici ou là que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne constitue la source évidente de tensions et de frustrations, parfois légitimes, oui. Partout dans le pays. Or, je reste convaincu que les forces vives de la nation, qu'elles se trouvent dans les quartiers ou dans les territoires, à Paris comme en région, font pleinement partie de la solution.
Donc, il faut deviner de qui ça vient.
Est-ce que quelqu'un a un tabouret et une corde, s'il vous plaît?
Arrêtez, il y a un truc qui est bien, c'est mesdames, messieurs.
Oui, là, déjà,
ouais, c'est bien.
Oui.
Elle conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques.
Et ça, ça parle un cheminot, ça.
Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus du progrès, ce progrès que j'appelle de mes voeux, doit nous amener au choix réellement impératif d'un programme plus humain, plus fraternel et plus juste.
Bon, alors, vous en fumez.
Je veux rassembler. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, riches ou en situation de sobriété subie, valides ou en situation de handicap. Ce n'est pas vous, dis-je, qui me contredirez si je vous dis que la nécessité de répondre à votre inquiétude journalière entraîne une mission, somme toute, des plus exaltantes pour moi.
Bon.
L'élaboration d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. C'est alors par un mot que je souhaite renouer le dialogue avec vous et traduire ce que sera la nature de ce dialogue. Et ce mot, c'est prout. Merci.
Alors,
voilà. C'est hyper réaliste parce que pendant que tu parlais, je regardais ta feuille pour voir autant des termes, disant putain, quand est-ce que ça s'arrête, c'est génial.
C'est vrai que c'est épouvantable. En fait, mesdames, bien, messieurs, et prout, c'est tout ce qu'il fallait retenir, en fait.
Et voilà, exactement.
Est-ce que c'est un discours d'Adolphe Thiers?
Je sais pas. Il y a un tiers de tiers, il y a
tiers payants,
deux tiers de Macron.
Là, vous avez pris toute la novlangue existante.
Je crois qu'il manque juste. Il faut raison garder.
Pour que ce soit Macron, il aurait fallu une expression des années 60 qui ressorte. On ne sait pas où.
De 60 avant Jésus-Christ.
Oui, c'est ça.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Voilà. Merci pour lui. Merci Manu. Eh bien, merci beaucoup Xavier.
Et puis rien.
Voilà, enfumé, comme il faut.
Et, voilà, et nous allons. De rien.
Alors, on va essayer de se réveiller avec TFN, hein, Angelus sur IDFM.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille. Et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première tomber des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Pendant que mes ennemis amnistient leur conscience, que mes anciens amis font tomber leur sentence, les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle. Quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première tomber des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur, du fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides. Je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime. Je suis ton assassin, je suis ton déicide. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir.
C'était Hubert Félix TFN et nous passons à Manu. Ah, Manu. Alors, c'est très important. Faut-il remplacer, puisque plus personne ne vote, faut-il remplacer les élections politiques par des concours de beauté?
Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Ok. Bien, comme je vous le disais, se droguer, c'est mal.
Faut-il remplacer les mystères des édiles par les mystères de l'Ouest et d'ailleurs? Mais si.
Attention.
À l'heure où l'Assemblée nationale offre un malheureux spectacle de marché de banlieue ou de vieux port marseillais, alors port avec un T.
Oui.
À l'heure où les députés s'écharpent sur leur tenue dans l'enceinte du débat démocratique. Oui.
D'où l'écharpe.
Oui, Alexandre, oui. Oui. On est en droit de se poser la question. Cécile Brunschvig, Suzanne Lacor et Irène Joliot-Curie.
Oui.
Vous?
Oui.
Mais oui.
Oui.
Vous étiez les premières à être rentrée au gouvernement en 1936, les premières femmes sous la présidence de Léon Blum. Mm-hmm. Alors certes, comme sous secrétaire d'État, hein, faut pas quand même, il est pas quand même fou, Léon.
Non, faut pas déconner.
Voilà, comme quoi les gens de gauche ne sont pas si mauvais. Je vous dis chapeau bas.
Oui.
Chapeau bas parce que vous êtes les premières avoir eu le droit de l'enlever, ce chapeau, qui était à l'époque, effectivement, sur toutes les têtes de femmes.
Sur tous les chefs, finalement.
Exactement, surtout les chefs. Et d'ailleurs, contrairement à ce que disait Geneviève de Fontenay. Alors, vous êtes sorti des canons, vous avez cassé les canons de la mode au sens large, en ne portant pas ce fameux chapeau à cette époque. Est-ce que nous avons eu d'autres miss comme ça dans notre histoire politique? Simone. Ah ben, Simone, viens ici, femme politique qui a su bien incarner le chignon strict de la folie capillaire d'une miss terrieuse avocate.
Bravo.
Cécile. Non, Cécile. Duflot, nec mergiture, tu as osé la robe.
Oh,
tu as osé la robe d'été à fleurs comme une miss Lyon du Parti Vert.
D'accord. Il est reparti l'Allemagne à Vermo, c'est reparti.
Attendez, c'est pas fini.
Ah bon.
Nicole Minetti.
Je connais Mara, le rosé. Je connais Minuti, moi.
Mara Carfagna.
Oui.
Alena Archinova.
Ah oui, mais là.
Eunice Olsen. Angela Kirikou.
Vous voyez Kirikou.
Comme elle est petite, mais elle est vaillante.
Guérécou.
Ah,
est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Et de qui je veux parler?
Totalement, parfaitement.
De qui je veux parler?
Pas en France, en tout cas.
J'ai l'image.
Je l'ai lu lentement, parce qu'effectivement, c'est des noms que je connais pas forcément.
Oui.
Allez voir, en fait. Parce que ce sont des missiles de la politique étrangère.
Ah oui, d'accord. Oui, mais
venez en
selon
France.
Vos critères à vous.
Selon des critères qui sont à peu près masculins.
Oui, c'est ça.
Venez en France. Venez en France. Redonnez à la chaîne publique Sénat les Miss Hill qu'il lui manque. Enfin, pour intéresser certains hommes à la politique. Mm-hmm. Nous allons donc sauver la cinquième, Lino. Elle n'est pas foutue. Bon, ceux qui ont vu l'aventure, c'est l'aventure qu'on
comprend. Voilà, c'est ça, oui, Sophie.
On va mettre de la jambe. On va mettre du décolleté dans l'urne. On va mettre du maillot de bain sur les affiches. Alors, qui n'aimerait pas voir, ma chère Camille, Nicolas Bazille, Gaël Le Boeck, Florian Boudier, Julien Rochdi, ou, Alexis Corbière, en slibard.
Oui, pourquoi pas vous? Pourquoi pas?
Je pousse un grand cri ce soir. Votez désormais un numéro surtaxé le soir des érections.
Bon, eh ben écoutez, pourquoi pas?
Et pourquoi on se libère d'ailleurs?
Eh oui, pourquoi pas? Ouais, Magali, justement.
Pourquoi pas aller jusqu'au bout?
Vous saviez pas que les Miss France, elles se présentaient encore en maillot de bain?
Eh ben très bien, mais merci beaucoup Manu. Et puis, sans transition, j'ai envie de dire, puisqu'on parlait de maillot de bain, Magali.
Oui.
Alors bon, on repart sur un sujet, c'est vrai que ça vous est proche, d'une certaine façon. Mais est-ce que l'école est responsable de la médiocrité de nos hommes politiques?
Oui, alors est-ce que vous voulez dire, doit-on à l'ascendant que Madame Macron continue d'exercer sur ses anciens élèves le grand effondrement socio-culturel, économico-politique que l'on vit depuis 6 ans?
Vous êtes responsable de ce que vous dites.
Voilà, mais
ça dénonce trop aussi, je m'en vais.
Non, mais en fait, j'avais bien compris votre question, Alexandre, et oui, ben oui, bien sûr. L'école est par définition responsable de tous nos échecs individuels et collectifs. Elle l'est donc de la médiocrité de notre classe politique.
Ben voilà.
À qui elle n'a même pas pris la peine d'expliquer le sens du mot politique, tant il est manifeste qu'elle œuvre désormais contre le bien et l'intérêt commun.
Moi, j'ai toujours dit que les profs étaient trop payés.
En plus. Alors, de l'école, nos politiques n'ont retenu qu'un seul mot auquel ils s'en prêtaient des pouvoirs un peu magiques, aphrodisiaques. Pédagogie.
Pédagogique.
Eh oui. Mmh. Ils ont en effet pris l'habitude d'imputer le chaos dans lequel chacune de leurs décisions plonge le pays à un défaut d'explication, comme si le citoyen n'était pas en mesure de comprendre tout seul, de sentir, devrais-je dire, plutôt ce qui lui arrivait. Et ainsi dévoyé, le mot désigne finalement une sorte d'art de l'escroquerie intellectuelle, bref, de l'enfumage, de mouches, de nous, enfin voilà. Et considérant qu'il serait grand temps de réapprendre à lire à l'école et militant pour une éthique de la lecture, pardonnez-moi, je vais être un peu prof là, voilà. L'essayiste argentin Alberto Manguel pointe du doigt cette manipulation par le langage qui, écrit-il, peut permettre aux parleurs de rester à la surface de la réflexion en prononçant des slogans dogmatiques et des lieux communs en noir et blanc.
Ça se prononçait pas Mengele?
Non. En transmettant des messages plutôt que du sens. Message qui échappe parfois à la vigilance des électeurs, à qui l'école n'a pas forcément mieux réussi, et qui finissent malgré tout par mettre sur le trône un président dont le slogan électoral consistait à afficher, sans craindre l'imposture ni le conflit d'intérêts, qu'il n'était pas un homme politique, mais un banquier. Une personne donc qui oppose politique et pragmatisme, considère que les mots idée, idéologie et utopie sont synonymes, se protège des débats à grand renfort de bons lacrymogènes et fait régner la démocratie à coups de 49-3. Alors oui, Alexandre, la liste serait très longue des exemples attestant de tous les fiascos de l'école avec nos politiques. Voilà. Actualité oblige, citons l'usage impropre du mot réforme, censé désigner par définition un changement qu'on apporte dans les lois ou les institutions en vue d'une amélioration. Ah oui, je sais, la définition laisse songeur.
Ça fait mal, hein, de
ça le fait très mal. Ouais.
Il n'y a pas que les règles qui forment. Hein.
Voilà. Et le même genre de confusion est communément observé entre les termes nouveauté, changement, progrès. Plus gravement encore, entre le oui et le non. Ce qui semble poser problème à nos politiques, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée d'ailleurs. Qui eût cru que ferait finalement école, non pas l'école, mais cette fameuse raffarinade yes needs the no to win against the no. Et inversement, j'ai envie de dire. Alors, à déplorer également la fastidieuse rhétorique des discours officiels avec ses grossières figures de style. À force de le répéter, bien oui, nous sommes en guerre. Vraiment, maintenant, oui, voilà. Mais aussi les trous de mémoire historique ou autres biais cognitifs, comme lorsqu'un président fait l'apologie du travail pour célébrer le 1er mai, ou qu'un autre explique que ce n'est pas la rue qui gouverne, vous en parliez tout à l'heure, faisant l'impasse sur le chapitre des congés payés et autres combats qui ont mené à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Tout aussi approximative, la maîtrise des registres de langues et des règles élémentaires du savoir-vivre. Vous remarquez, je ne dis pas vivre ensemble. Du savoir-vivre, ce mot existait bien avant. Donc. Alors, dès lors qu'un président ne peut retenir un « casse-toi, pauvre con » ou un garde des Sceaux en bras d'honneur en plein hémicycle. Et comme le dit encore Alberto Manguel, la lecture est une activité qui a toujours été considérée avec un enthousiasme mitigé par ceux qui nous gouvernent. Élégant euphémisme. Quant à l'activité intellectuelle, ajoute-t-il, elle est dépourvue de tout prestige. La plupart de nos leaders savent à peine lire. Madame de Lafayette, Voltaire et Louis Croivet-Bâton sont loin d'être les seuls à en faire les frais. Alors, pour ne pas risquer de détonner dans le paysage, les hommes politiques, tout simplement, ont fait l'école à leur image. Un carnaval grotesque. Comme par exemple dans cette épreuve du baccalauréat, pompeusement nommée grand oral, où il est demandé très sérieusement au correcteur dans les consignes très officielles d'évaluation, de ne pas s'attacher au contenu.
C'est énervant, hein.
Et ouais. Mais c'est véridique, hélas. Quant à savoir où on apprend la dignité, la responsabilité morale, l'engagement sincère, l'adéquation entre la parole et les actes, le respect d'autrui et des institutions démocratiques, autant de gros mots que les inspecteurs ont bannis de l'école. Une idée, monsieur Badinter?
Ah, c'est très bien. Vous passez le grand oral, mais vous avez un sujet, mais le contenu, c'est pas grave.
C'est pas grave. D'ailleurs, les professeurs de mathématiques sont recrutés pour évaluer les épreuves de langue vivante. Bah, et réciproquement, et ça c'est véridique aussi. Non mais c'est très sérieux.
Est-ce qu'il faut que je demande à mes filles de venir en maillot de bain du coup?
Bah pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un critère qui peut-être, lui, peut-être, on a peut-être droit de le prendre en considération.
Merci beaucoup Magali. Allez, nous allons faire une petite pause musicale avec Depeche Mode, Master and Servant, sur IDFM. It's a lot, 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 like life.
We a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Masculine servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.
It's a life. That's what's up here. You despise the throwaway fears. It's going to be fun. And this is the one.
C'était Dépêche Mode sur IDFM et nous retournons dans Demain Tout Ira Mieux avec Alex.
Oui.
Alex qui va nous infotrafiquer. L'infotrafic pour aller à la buvette de l'Assemblée Nationale.
Suivez les flèches de Bison Futé et préservez vos nerfs.
Quoi ça ?
IDFM Infotrafic. C'est bientôt l'heure de la révolution sur IDFM et tout de suite on fait le point sur vos conditions de circulation si vous avez envie de vous rendre à l'Assemblée Nationale. Pour aller discuter calmement mais fermement avec votre député qui n'a pas voté la motion de censure, je dis ça au hasard, tout le monde connaît ici ma neutralité légendaire. Alors, aujourd'hui, jouons ensemble. Je vous propose un trajet sur le modèle des livres dont vous êtes la victime, le héros. Donc ça va être un truc un peu interactif, donc je vais vous demander de participer un peu pour pas que vous vous endormiez. On commence. Vous êtes passé vous équiper pour cette journée et avez dans votre sac une pioche, des allumettes et une poubelle à cramer. Souhaitez-vous prendre votre véhicule critère 5 de pauvre, rendez-vous au paragraphe 4. Hypothéquer votre famille pour acheter un ticket de train, allez au paragraphe 7. Alors un avis ? Train,
train ou famille.
L'hypothèque.
On hypothèque.
Après avoir pris une amende malgré tout, vous voilà enfin dans Paris. La ville lumière si subtilement chantée par Pierre Perret. Il est maintenant temps de choisir un trajet pour rejoindre vos élus préférés. Si vous décidez de passer entre les montagnes de poubelles, direction le paragraphe 8. De défier l'antre des rats, allez en 11.
Vu le prix de la viande, je me farcir un rat parce que faut.
Allez, là. Félicitations, Alexandre, vous avez contracté une maladie du Moyen-Âge. Vous en profiterez certainement, tel que je vous connais, pour gratter un arrêt maladie qui contribuera à ruiner le pays. Mais un autre problème se dresse devant vous. Une manifestation a lieu dans les rues. Et un tir de grenade de désencerclement juste, proportionné et républicain vous vise. Allez-vous l'arrêter avec votre œil droit ? Allez au paragraphe 17. Le stopper avec votre œil gauche ? Rendez-vous au paragraphe 5.
Ah, Xavier, c'est à votre tour.
Xavier ?
Ouais, deuxième alternative.
Allez, c'est votre côté de gauche. Vous reprenez, Xavier, votre trajet en sortant de l'hôpital après 78 heures d'attente dans la salle des urgences. Mais voilà que, de votre œil encore valide et non infecté, vous êtes sûr de reconnaître votre député de circonscription déguisé en Black Bloc. Il vous déclare que non, il n'est pas député, mais un méchant factieux, qui est très très vilain, un grou-grou. Bref, c'est exactement ce que dirait un député. Est-ce que vous souhaitez lui faire part de vos revendications démocratiques ? Allez au paragraphe 49.3. Lui demander quoi que ce soit d'autre ? Allez au paragraphe 49.3. Manu ?
Écoute, quoi que ce soit d'autre, parce que le reste on s'en fout.
Bah, très bien. Le député se met à pleurer sur son sort. Entre deux coulées de morve, il vous propose de prendre sa place dans l'hémicycle. Vous touchez au but et vous dirigez enfin vers l'Assemblée Nationale. Rendez-vous au paragraphe 666. Arrivé devant votre objectif, vous rencontrez Gérard Larcher, qui vous déclare que tous les choix d'embranchement que vous avez fait jusqu'ici menaient au même résultat. Il vous explique que c'est ça la démocratie, puis se penche vers vous et, d'un air entendu, vous murmure « ça fait réfléchir hein. » avant de vous dévorer vivant. Vous êtes mort, fin de votre aventure, et vous pouvez désormais la recommencer au paragraphe 1. Voilà pour moi, allez, N'oubliez pas que celui qui conduit, c'est celui que les autres n'ont pas vu boire. Et bonne route à tous.
Merci beaucoup pour ce... J'aimais beaucoup ces livres-là.
J'en moi aussi. Ça, c'était... Petite nostalgie.
Mais bon, en fait, ils ont même... Enfin, j'étais un petit tricheur, donc moi, je regardais la fin pour savoir comment ça se passait.
Ah, moi, je grugeais sur tout.
Et en fait, ils ont compris qu'il y avait beaucoup qui grugeaient la fin pour avoir la fin. Et voilà. Bah, et en fait, ils ont mis les fins, mais au milieu du livre. Ce qui fait qu'à la fin, moi, je comprenais pas. En fait, on est obligé de mourir. Donc, en fait, la fin était sur un autre chapitre. Mais j'aimais beaucoup ces livres. Tiens, Xavier. Eh ben, on va médium niquer. Je sais que vous aimez ça. Et vous en penserez encore Corinne, hein, parce que si je vous l'ai pas dit.
C'est alors. C'est quoi sa taille, médium?
Voilà. Bah, écoute, médium.
Tu vas voir, ça va pas être médium, la taille.
Xavier se propose, avec ses pouvoirs médiumniques, de lire l'avenir de la réforme des retraites dans une couche confiance au Sénat.
Bonjour, c'est Gérard Larcher. Alors, en ma qualité de président du Sénat, je m'adresse par la présente tribune au gouvernement. Et je dis que nous ne sommes pas très contents. Hein, sans vouloir vous offenser, évidemment. Or, en effet, nous, sénateurs, avons accepté votre réforme des retraites. Et toutes les autres. Comme vous nous l'avez demandé. Et pas seulement par intérêt. Hein. Ah non, il ne faut pas dire ça. Hein. Par lâcheté aussi. Mais vos coupes successives dans les dépenses publiques et surtout dans les dépenses de santé et d'hygiène au Sénat ont entraîné une grave crise au sein de cette institution.
Des petits problèmes de cardio, Gérard.
Merci. Et cette crise vient d'un manque de confiance. Et quand je dis confiance, je ne parle pas de fidélité ou de loyauté, hein, puisque ça fait longtemps que ça n'existe plus chez nous, mais de cet accessoire indispensable qui permet à chaque sénateur de rester assis pendant au moins 5 minutes sans faire savoir à ses voisins d'assemblée qu'il a mangé du chili con carne ou de la soupe au chou à midi. Hein? Parce que c'est par elle, la confiance, hein, que la carrière d'un sénateur se construit, généralement par couches successives. Hein? Car il est vrai que chez nous, la confiance déborde souvent. Et doit être alors régulièrement renouvelée. Hein? Sans cette confiance, la France est dans la merde. Bien entendu.
Mais au chaud.
C'est sûr. En ces temps d'économie d'énergie, de sobriété subie, ça peut se concevoir. Bien entendu, je vous épargnerai l'évocation de mon cas personnel.
Oui, hein? Oui, merci.
Mais je crois que ma confiance aurait une véritable utilité. D'abord, quand elle est pleine, elle pourrait réduire la faim dans le monde. Hein, pour peu que le monde ait évidemment l'estomac bien accroché. Hein, évidemment. Et puis, elle est vertueuse. Hein. Par exemple, celle que j'ai jetée hier va servir de voile de secours pour un trimaran dans le cadre du prochain Vendée Globe. Hein. C'est pourquoi je vous le demande, mesdames et messieurs du gouvernement, placez à nouveau des confiances sur nos fesses. Nous placerons la nôtre en vous. Et puis, ça me permettra de reprendre une double portion de cassoulet à la cantine du Sénat sans culpabiliser. Merci.
Merci. Ben, je sais pas s'il faut vous remercier, hein. Mais merci quand même, Gérard.
Il en tient une couche, lui. Hein.
De rien.
Oh, voilà. Grande forme, Manu. Ben, c'est bien que vous ayez la parole.
Lèche ! Je fais cette merde ! Lèche ! Lèche !
Est-ce que le politicien est un abruti comme un autre ?
Alors. Au début, il proposait ce texte.
Pourquoi il réfléchit ?
Parce que je fais de l'impro, il a le droit. Alors, pour répondre à la question, et je peux être sérieux deux secondes.
Oui, deux secondes.
Bien. Mm-hmm. Bof, je ne crois pas.
Bon, ben merci.
Donc un abruti, c'est quand même une tanche, un branque, un lourdeau, une passoire, une truffe, un loser. Un politicien est avant tout un menteur, non ? Ou je dois me tromper ? Alors, comment plaire au plus grand nombre en défendant ses seules idées de parti ? Ça, je me pose encore la question. Comment se faire entendre si on est insulté ou si on insulte les autres ? Comment Monsieur Louis Alliot voulait bien qualifier Monsieur Lucas Brouck à l'époque d'abruti pour avoir perturbé un rassemblement de réfugiés ukrainiens ? Alors, tout est dit. Même les gens de son parti sont des abrutis. Mais finalement, si on les embauche soi-même, est-ce qu'on n'est pas un abruti? Et finalement, est-ce que ce ne seraient pas tous des abrutis? Alors, Alex m'a proposé de faire la liste de tous les abrutis par type. Donc, je vais commencer par l'abruti de type 1.
Ah, oh là là, je t'arrête, ce n'est pas du tout prévu, quel happening.
Oui, d'accord Alexandre, je m'arrête. Il y a bien trop de types d'abrutis. Donc je continue ma chronique.
Oh, l'acteur studio.
Et je n'ai pas gagné 5 minutes. Non, je pense que vous vous trompez.
Oui, oui.
L'homme politique, quand c'est un abruti, est le pire des abrutis. Ce n'est pas un abruti comme les autres. Il est abruti de la charge qui pèse sur lui, comme un chef tout puissant, qui peut dire à loisir, la loi c'est moi. Le peuple, c'est moi. La République, c'est moi. Et pire, l'État, c'est moi. Les bêtes hébétées peuvent parfois se cacher dans l'hémicycle ou le fauteuil d'un conseil municipal. Ils sont bien meilleurs que les autres abrutis, les chefs d'escadrille des abrutis volants. L'abruti est une espèce commune qui peut se loger dans les urnes comme dans le siège de sa voiture. Mais quand il a vos voix, il se place bien au-dessus. Bien au-dessus des partis. Voilà, des partis génies.
Oui, voilà.
Génitels que les urnes peuvent en offrir.
Il fallait qu'il la fasse. Il fallait qu'il la sorte d'une certaine façon. Hein, histoire de rebondir dessus.
Quand ça veut sortir,
voilà,
ça sort.
Oui, ça vient. À un moment ou un autre, ça vient. Merci beaucoup, Manu. Allez, on va faire une troisième pause avec Michel Berger. Diego. Oui, Diego. Oui, Xavier. Non, ils sont fous.
Oui. Libre dans sa tête.
Voilà, libre.
Xavier, il a fait ses deux chroniques. Oui, parti.
Ouais, bah, c'est bon, hein, je suis ailleurs. J'ai déjà la tête dans le métro, là.
Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.
C'était Michel Berger avec Diego, hein, Xavier.
Ah, bravo.
C'est rêvé. Voilà, libre dans sa tête, toujours, hein. Dans sa tête de train. Alors, Magali.
Oui.
Ouais, j'ai envie de vous dire, vous allez rehausser le niveau, c'est sûr. Est-ce que rétablir les duels à l'épée ne motiverait pas plus nos députés à l'Assemblée nationale?
Bah, remonter le niveau, je ne sais pas, ça sent un peu le sujet bizutage, non?
Non, pas du tout.
J'ai un peu pris comme ça. Mais d'ailleurs, je ne suis pas totalement certaine de bien comprendre la question. Alors, s'agit-il d'occuper les députés en leur proposant de s'entretuer autour d'un texte de loi visant à légaliser le duel à l'épée entre détenus, par exemple, comme régulateur de la pression carcérale? Ou s'agit-il de leur proposer cette activité pour eux-mêmes, en mode école Montessori, dans l'espoir de les forcer à assumer tout en la canalisant leur agressivité et en fin de compte de les remotiver pour la défense de leurs convictions.
Vous allez trop loin,
mais bah, voilà.
Alors, loin jusqu'à la garde.
Le jusqu'à ludique, garde. Coûte que coûte, l'instinctif, l'intuitif, il n'y a que comme ça que ça rentre, paraît-il. Avoir tout de même avec une épée à la main. Voilà.
Bien, bien.
Quoi qu'il en soit, il est certain que quitte à ce que cet organe, je vais dire notre Parlement,
ça y est, ne soit forme, l'émission
ne soit, mais j'ai écouté celle de la semaine dernière, ne soit plus pour notre démocratie qu'un bel écrin de velours rouge, autant qu'il serve de décor à de palpitantes étreintes escrimistiques. Ouais. D'ailleurs, le terme d'escrime désigne, rappelons-le, en plus d'une discipline sportive, tout exercice qui met en jeu le corps ou l'esprit. Escrime pugilistique, la boxe, la dialectique, escrime de l'intelligence. Tout un programme dont on ne peut que rêver pour nos chers élus, non ? Alors, le choix des armes, l'épée en l'occurrence, peut bien sûr s'avérer déstabilisant. Davantage coutumier de blagues sexistes, de gestes injurieux, de paroles déplacées, d'invectives, de sifflets, nos députés goûtent peu aux instruments que l'on apprend à affûter à la loyale, à manier avec élégance, précaution et où compte, en plus de l'impact, la beauté du geste. À n'en pas douter, certains y verraient une fascinante extension de leur verve percutante. Mais ne serait-il pas pour cette même raison déraisonnable de la laisser entre toutes les mains, si représentante de la nation soit-elle ? Mais oui. Pour croiser le fer, un problème réellement de taille, pour le coup, va toutefois se poser, même pour des figurants. Le duel à l'épée suppose panache, courage, noblesse, respect, et c'est un peu là qu'est l'os, comme qui dirait. Cela supposerait également qu'un consensus soit adopté pour fixer les règles du jeu, et ici, non plus, la partie est loin d'être gagnée. Quant à la devise de chaque partie, on ne peut présumer de rien, mais imaginer n'importe quoi, comme ils le font. Ainsi, de gauche à droite, pas de quartier pour la vie, au nom de la moi république, réparation pour notre mère, la terre, marche à l'ombre jusqu'à la garde... Sauf qui peut les Français.
Voilà.
Ouais, je sais, je ne suis pas très agile en matière de process slogan.
Ça va venir.
Voilà. Alors on s'en tient à celui qui marche pour chacun, bien connu des gens de ma génération. Un pour tous, tous pourris. Mais tout de même, Alexandre, oui, si comme par magie, quelque chose d'un peu 18e siècle pouvait advenir dans l'hémicycle derrière le ferraillement des épées en action. Tel un souffle épique et philosophique susceptible de charrier dans son sillon quelque chose comme du raffinement des mots et de la pensée, comme du désir d'embrasser un savoir encyclopédique, devrait à l'expression de toutes les libertés.
Calmez-vous, Manu.
Quelque chose comme une aptitude à l'honneur et à l'indignation, comme une tentative de mise en conformité des aspirations et des réalités, et accessoirement comme une volonté d'abolir la monarchie. Et oui. Mais enfin, se battre pour des idées, quelle idée ? Non, je crois qu'en guise de lumière, nos députés seraient plutôt tentés par un duel au soleil, à la Dao, à la cool, quoi. Et du haut de la falaise rebelle, jeter l'autre la tête en bas. Et surtout, ne penser à rien d'autre qu'à soi. Alors, essentiellement éclairés par l'inaction, ils se sont tournés vers une sagesse alternative, en appliquant à leur manière des techniques de pleine conscience. Être tout à soi, ne penser qu'à soi, ou même idéalement réussir à ne penser, à ne pas penser du tout.
Du tout, oui.
Absorber le soi dans le non-être, s'absoudre de toutes ses compromissions, congédier les idées, tuer les émotions, s'en remettre à tous ses renoncements. Plus de combat, plus de débat. On respire, on oublie tout, et surtout ce qu'on fout là. Mais avec bienveillance.
Oui, bon, Manu, ça va ?
Oui, non, j'ai une question à poser.
Jules Minel.
Non, juste une question à poser. Non, parce que j'avais pas compris. Oui. Mais la question, c'est, est-ce que tu penses que les épées sont-ils des armes finalement ?
Ah, non, voilà.
Ah, mais l'accent aigu, l'accent grave, c'était une distinction à une époque.
Mais alors, Manu, tu ne mérites pas ces chroniques.
À l'oral, on s'en fout. On s'en fout des accents circonflexes. Merci beaucoup, Maga. Et nous allons écouter Alexandre.
Oui.
Alexandre,
oui.
Hein, qui est encore. Pff, là, c'est presque le Ushuaïa.
C'est exactement cet angle.
C'est la journée type d'un député centriste à l'Assemblée nationale.
écouté pour ce reportage sur la vie trépidante d'un député centriste. Je suis parti en interview. Voilà, j'ai été chercher cette espèce en danger pour lui poser quelques questions. Je vous livre tel quel l'enregistrement pour quelques minutes, sans langue de bois évidemment. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un cadre convivial, je vous propose qu'on s'appelle par nos prénoms. Donc moi, voilà, Alexandre, enchanté. Et vous, donc, alors, je vous arrête tout de suite. Aucun problème pour la confidentialité, si ça me permet d'avoir l'air sympathique. Mais pour des raisons de confidentialité, de modestie et de vindicte populaire, je souhaiterais que mon prénom soit anonymisé. Aucun problème, Christophe. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler votre journée type à l'Assemblée ? Alors, tout d'abord, et avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que je ne suis pas que député, mais également élu au conseil régional, au conseil départemental, au conseil municipal, à l'association des parents d'élèves et à l'amicale laïque des amateurs de hockey sur carrelage. J'ai donc de nombreuses responsabilités et pas plus tard que ce matin d'ailleurs, j'étais en réunion pour un projet dont la teneur m'échappe mais que je soutiens fermement. S'en est suivi un colloque sur l'importance de la démocratie participative au regard des enjeux partenariaux entre les acteurs du territoire à l'aune de la conception étendue des pouvoirs publics ou un truc dans le genre. Enfin, je sais plus. Très bien, merci Stache. Et c'est donc après ce travail que vous vous êtes rendu à l'Assemblée. Alors non, j'ai rejoint mon groupe parlementaire pour une table ronde. Puisque nous sommes deux, nous avons opté pour une table de bistrot, ce qui nous a permis de travailler efficacement, tout en nous rapprochant du quotidien des connards des citoyens, dans leur milieu naturel. Alors si je devais vous détailler l'ambiance, je dirais tout d'abord que, pardon de vous interrompre, Cheng, mais donc, c'est après ça que vous êtes finalement rendu à l'Assemblée nationale. J'entends votre question. Sachez que j'ai à cœur de m'occuper personnellement de chaque détail. Et j'ai donc eu un entretien avec mes équipes pour une question d'urgence concernant un dossier de couleur des stylos Bic. J'ai finalement passé le relais à mon attachée parlementaire, la délicieuse et très... compétente. Stéphanie. Désolé Stéphanie, c'est aussi un prénom anonymisé ? Non, pas du tout, non. Je tiens à être parfaitement transparent avec mes électeurs. Entendu. Donc, Jean Farid, pouvez-vous nous dire comment s'est terminée cette dure journée ?
Bien, le plus simplement du monde, je me suis rendu à mon bureau vers 14h30 pour y demander si ma présence à la séance de l'après-midi était requise. Mes collègues et les élus Renaissance m'ont indiqué gentiment que mon temps pouvait être mieux employé ailleurs. Pour être exact, je crois qu'ils ont dit lol. C'est donc désormais en toute humilité et en pleine conscience que je me présente aujourd'hui devant les électeurs. Ah, pardon, de quoi parlions-nous déjà ? Hein ? Qui êtes-vous ? Ouais Stéphanie, maman. Merci monsieur le député, je pense que nos auditeurs sont bien mieux informés maintenant. Et voilà qui remet au goût du jour la célèbre formule, vous connaissez, un centriste. Oui. C'est quelqu'un qui n'est ni de gauche ni à son poste de travail. Allez, je vous rends l'antenne.
Merci Alex, très sympa cette petite immersion, à une certaine façon. Allez, placebo, beat your end sur IDFM. Vous venez d'écouter Placebo et nous passons à notre séquence habituelle du Cadavreski avec Magali qui donc a découvert ce bel exercice avec nous et c'est la première fois qu'elle va jouer. Alors donc l'ordre de passage, donc je commence, ensuite c'est Xavier. C'était quoi votre amorce ?
L'amorce que l'on m'a donnée, mais qu'est-ce que c'était que ce bruit ?
Oui, ensuite Manu.
La mienne c'était... Là est toute la question à laquelle Fistine et Justine devront répondre. À demain, Xavier.
Alex.
Il a pas compris.
Je sais pas. J'ai pas noté l'amorce, j'ai noté la suite. Bah, donc, mais c'était une amorce de Manu, si ça peut vous aider. Donc, voilà.
D'accord, bah, attendez, je l'ai. Et vous pensez vraiment que cela va rentrer dans un trou si petit?
Voilà.
Donc, c'était bien l'amorce de Manu.
Ça, c'est clair, y a pas de doute.
Et donc, Magali.
Après tout, il restait encore un témoin de cette folle soirée.
Bon. Et donc, moi, j'ai hérité de « Il était peut-être grand temps de passer à autre chose ». Je sais pas où on va aller, hein, vraiment. Mais bon, c'est le jeu. Allez, c'est parti. Épisode 456 selon le syndicat, épisode 2 selon la police. Résumé des épisodes précédents. Justine est toute excitée de retrouver sa meilleure amie Fistine pour passer une sacrée soirée. En moins de 5 minutes, Justine avait enfilé sa tunique d'écolière japonaise, viré son plan Tinder, relâché Foufounette sur les toits et retrouvé sa copine Fistine au coin de la rue. En la rejoignant, Justine était déjà en joie. Fistine avait prévu un programme d'enfer pour faire la fête. J'espère que ce sera aussi bien que la soirée Égalité, Tupperware et Boukake du collectif de Royauté et République à la taverne de l'Aubergine de la Troie. Arrivée à la hauteur de son amie, Justine s'aperçut à sa tenue que la soirée serait certainement plus sobre que d'habitude. En effet, plutôt que d'enfiler sa tenue de Dominia, la religieuse qui fouette, Fistine avait opté pour une simple guêpière rouge et noire en dentelle, ouverte sur ses seins obusiers, en matériaux polyamides et élastane, porte-jartel et mangeable, string à pompons, avec l'inscription « Entrée, c'est ouvert ». Oui, j'ai décidé de faire sobre ce soir. Et les deux amis partirent vers le bar La Boîte au Cantin, dont les néons allumés le soir qui n'étaient pas cassés faisaient scintiller seulement 9 lettres L-A-B-I-T-E-A-U-Q. Tiens, regarde Justine, c'est déjà écrit ce qu'on va faire ce soir, la bito. Mais Fistine ne finit pas sa phrase, voyant Justine arrêter, le regard attiré par une forme au loin. Qu'est-ce que tu as vu ma poule ? Demanda Fistine. Regarde Fistine, t'as vu ce truc là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Fistine se mit à hauteur de Justine, tenta de distinguer l'espèce de masse informe dans la pénombre de l'impasse mal éclairée. « T'as vu un truc bouger là ?» demanda Fistine. « Chut !» lui fit Justine. « J'ai entendu quelque chose là-bas. Ça fait comme un bruit de bête blessée. J'ai entendu comme des pleurs. » Les deux amis tendirent l'oreille. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?»«
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bruit ?» « N'est-ce qu'une simple sensation perçue par l'oreille ?»« Ou plutôt, faut-il l'entendre ?» Tiens, là encore, l'oreille est à l'affût. Comme une nouvelle répandue, des propos rapportés dans le public, une rumeur. Ne dirait-on pas là qu'il s'agit d'un bruit qui court ? L'image est belle, mais quel bruit fait un bruit qui court quand il court ? Là est toute la question à laquelle Fistine et Justine devront répondre.
Oh, Fistine, on ne peut pas répondre !
Fistine, l'habituelle religieuse qui fouette, c'était bien pourtant elle qui laissait dans l'air chargé de volutes d'envie l'odeur barbare de ses aisselles et du parfum rance de ce qu'elle avait entre les lèvres. Pas celle-là, les autres. Elle fouettait sévère, laissant la marque de ses effluves au nez et à la barbe de Justine et des hommes médusés par ses formes calipiges. L'odeur était insoutenable. Il fallait absolument recoudre ses manches de son haut en latex. Justine, toujours prête, sortit l'aiguille qu'il débarrassait de sa tenue pour enfiler le fil de l'histoire dans le petit chat.
Et vous pensez vraiment que ça va rentrer dans un trou si petit ?
Décidément, cette armoire était aussi dure à monter que Fistine était facile à démonter. Cette dernière s'impatientait. Mais passe-moi la perceuse. Justine se demanda un moment si c'était une requête concernant le bricolage ou un nouveau kink de son amie. Puis se ressaisit. D'un geste assuré, elle balaya les peluches Winx de son enfance qui lui servaient désormais à camoufler astucieusement sa cocaïne. Puis plongea la main dans son coffre pour y trouver l'outil. Triomphante, elle le tendit à Fistine qui entreprit de terminer le montage du meuble. Il fallait se dépêcher. Ce corps n'allait pas pouvoir rester à l'air libre plus longtemps. et la nuit était loin d'être terminée. Après tout, il restait encore un témoin de cette folle soirée.
Un témoin que le hasard avait mis sur leur route. Un hasard dont il eût fallu peut-être qu'elle se méfiasse davantage et sa chasse de quel bois elle se chauffait. Réellement. La silhouette s'agitait dans tous les sens en sautillant comme si elle jouait à la marelle pour atteindre le septième ciel. Une bonne surprise les attendait peut-être, mais comment savoir ? Plus d'une fois, le hasard donc leur avait joué des tours, en particulier lorsqu'il s'était agi de tirer à la courte paille le partenaire de jeu du jour, la plus courte n'étant pas toujours la meilleure en l'occurrence. Aller se coucher n'était donc pas la plus absurde des options. Il était peut-être grand temps de passer à autre chose.
Oui, mais quoi faire ? Que faire quand on se gèle le cul à 23h dans une ruelle pourrie valoise, alors qu'on aurait pu aller simplement boire des coups avec sa meilleure amie dans un bar ? La meilleure chose à faire pour Justine aurait été de rentrer chez elle, d'aller se coucher en laissant oublier cette soirée de merde. Fils, il ne lui en voudrait pas. Elle l'appellera demain pour savoir si elle s'est bien remise de tous ces événements. Pas facile de vivre avec un Alzheimer précoce. Eh, hey, il était énorme celui-là. Il était énorme. Bravo, bravo pour cette première Magali.
Et bravo.
Et là, franchement, Xavier, super, le truc avance pas, j'adore.
Je fais que ça depuis le début de l'émission, je sais pas si t'as remarqué, entre le discours du début. Et...
Mais qu'est-ce que ce bruit? Qu'est-ce qu'un bruit? Ça s'écrit comment? Bravo, merci beaucoup. Bah, c'est déjà la fin de cette émission. On a bien rigolé. On a bien rigolé. J'espère que vous avez rigolé aussi. En tout cas, les huissiers ne sont pas là, donc ça devrait aller pour une fois. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour Demain tout ira mieux avec de nouvelles aventures. Xavier?
À bientôt.
À bientôt, Alex?
Ouais.
À bientôt, Magali?
J'espère.
Oh, bah oui, nous espérons aussi. Et Emmanuel, le mot de la fin?
Calipige.
Comment?
Calipige.
Ouais, on fait pas de pub. Mais pourquoi pas? Donc, Calipige. Je vous chercherai chez vous pour la semaine prochaine et on verra s'il faut interner Manu. Je vous dis à la semaine prochaine et nous écoutons Master Funk. Vous aimez le funk, Xavier?
Oui.
Ils s'en foutent. Ils s'en foutent aussi. Mais alors que c'est vachement bien.
Je suis déjà revenu chez moi.
Il est en duplex.
Ah oui, il a duplex de chez lui. Qu'est-ce qu'il fout là alors? Allez, on vous laisse avec Master Funk sur IDFM. Bye bye.
IDFM 98 FM.